Est-ce que c'est bon? Oui. Je voudrais faire une annonce. Il y a eu un petit loupé pour les danseurs qui vont arriver ce soir. Donc, en fait, on leur a laissé du temps entre le moment où vous finissez les ateliers à 16h30 et le moment où il y a la conférence de Nalilo Martuccelli, qui est donc à l'Abbé Grégoire. Donc là, vous aurez des mouvements dansés dans la salle des textiles. Hein. Et je voulais aussi vous signaler que pour ceux qui ont loupé le café ce matin, les cuistots migrateurs nous laissent les jus de fruits et les gâteaux pour le reste de la matinée. Donc si vous avez un petit creux, pensez à faire un petit tour en salle des textiles. Et je vous rappelle aussi que la librairie est ouverte et que les revues sont là. Donc n'oubliez pas que la salle des textiles, c'est le centre animé de cette biennale. Merci.
Un, deux. Oui, ça marche.
Alors, Martine va me dire stop. Donc, on attend encore un peu, on fait quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent? Non, c'est bon, on commence.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Bienvenue donc pour cette deuxième conférence plénière de la Biennale. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir donc Mireille Sifali. Comme hier, je ne vais pas être très long, mais juste présenter très rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc tout d'abord, Mireille, merci pour ta présence. Merci d'être là. Ici, beaucoup te connaissent. Mais je vais simplement rappeler quelques éléments liés à ton parcours. Tu es professeur honoraire en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Genève. Et pour rappeler quelques éléments de biographie, ta thèse a été intitulée « Éléments pour une démarche psychanalytique dans le champ éducatif », à l'époque dirigée par Michel de Certeau, thèse que tu avais soutenue, bien évidemment, à l'Université de Genève. Et tu as cessé de développer depuis une approche à la fois historique et psychanalytique en éducation et formation. Parmi l'ensemble des ouvrages de Mireille Sifali, que vous pourrez pratiquement tous retrouver à l'étage à la librairie, hein, eh bien, il y a des ouvrages que l'on connaît bien, dont je vais simplement répéter les titres parce qu'ils donnent à voir ton cheminement de pensée et peut-être aussi ta manière d'écrire, puisqu'il va être question d'écriture aussi. S'engager pour accompagner, valeur des métiers de la formation en 2018. Préserver un lien, éthique des métiers de la relation en 2019. Et un titre que j'apprécie particulièrement, tenir parole, formidable titre. Responsabilité des métiers de la transmission en 2020. Il y a également un livre dont j'aimerais parler, puisqu'il nous tient particulièrement à cœur. C'est celui-ci, qui s'appelle « Écrire l'expérience ». Il est également disponible au rayon de la librairie, plus haut. Je ne vais pas aborder son contenu, parce que je crois que tu vas largement nous en parler. Mais c'est un livre auquel on tient à plusieurs titres. D'une part, parce que vous l'avez compris, il est immédiatement en lien avec la thématique de cette biennale. Aussi parce que tu l'as publié donc au PUF en 2007 et parce que c'était dans la collection de Jean-Marie Barbier, auquel cette biennale, bien évidemment, rend hommage ainsi qu'à son travail. Et je crois que c'est aussi l'occasion de saluer tout l'immense travail éditorial qui a été celui de Jean-Marie tout au long de sa carrière et qui a permis notamment de publier cet ouvrage qui est très important pour nous. Alors, comme d'habitude, nous allons t'écouter pour 45 minutes, s'en suivront comme hier, hein, un quart d'heure ou 20 minutes d'interaction avec les participants. Et pour celles et ceux, petit élément de précision, pour celles et ceux qui voudraient connaître ton travail, ils peuvent bien entendu se rapporter à tes ouvrages, à tes publications, et elles sont nombreuses, mais aussi à ton site internet, très intéressant, consacré à ce que tu appelles tes prises d'images. Et alors, moi, j'aime beaucoup consulter ton site avec tes prises d'images, parce qu'elles nous donnent aussi à voir un aperçu de ton travail, de ton regard sur le monde, peut-être, j'oserais, de ton regard clinique sur les choses de ce monde. Et ça permet aussi de continuer à découvrir le fil de ta pensée. Voilà. Donc, je laisse immédiatement la parole à Mireille Cifali. Merci.
Bien, bonjour, d'abord. Je vous remercie de votre présence ce matin et je remercie aussi qui m'a invitée à vous parler ce matin. Je n'ai pas de PowerPoint, mais je vous indique quand même l'architecture de mon propos avec des titres un peu sibyllins pour l'instant. Premièrement, une origine. Deuxièmement, une responsabilité. Troisièmement, une reprise. Quatrièmement, ce qui s'oppose à une pensée de l'expérience affectée. Et cinquièmement, en guise de. Bon, j'espère que ma voix va tenir. Alors, une origine. Jean-Marie Barbier m'a sollicité pour cette conférence à partir d'un ouvrage que nous avions écrit en 2012 avec Alain André et que Joris vient de vous présenter, et qu'il avait accueilli dans sa collection aux Presses universitaires de France. Un ouvrage intitulé « Écrire l'expérience, reconnaissance des pratiques professionnelles ». Dans cet ouvrage, nous faisons l'éloge de l'expérience quotidienne des professionnels, de leur implication nécessaire, des sentiments éprouvés dans une philosophie de l'agir qui donne tout son poids à la capacité de chacun à trouver dans des situations singulières un chemin avec l'autre, une rencontre qui ne soit pas une impasse et qui puisse ouvrir sur des possibles. Nous y faisons l'éloge non seulement d'une parole échangée entre professionnels, mais aussi du passage par l'écriture pour que l'expérience entre dans la sphère des savoirs transmissibles au même titre que d'autres recherches publiées. Nous souhaitions avec d'autres, éducation permanente par exemple, que l'écriture ne reste pas aux seules mains des universitaires et théoriciens, mais qu'il y ait un savoir de l'expérience des professionnels qui se transmettent. Comme clinicienne, c'est la richesse de ce savoir sur lequel je m'appuyais pour enseigner. Éloge de la sensibilité, nécessité d'un engagement corporel, disponibilité à la situation rencontrée, intelligence de l'instant, mobilisation des connaissances acquises, recherche de compréhension, écoute, patience. Écrire cette complexité d'engagement, ces histoires racontées pour les comprendre, pour s'enrichir de l'expérience et saisir toutes les dimensions de l'apprendre pour soi et pour les autres. Avec un éloge d'un travail d'intériorité entre soi et soi, entre soi et l'autre, dans une articulation toujours tendue entre psychique et sociale, pour comprendre ce qui arrive à chacun, ce que nous ressentons, nos angoisses, nos doutes. Travail sur ce qui fait buter, souffrance, pour nous maintenir vivants, c'est-à-dire en mouvement. Dimension cognitive, certes, mais aussi affective, où le désir, la curiosité, la joie de découvrir font partie du processus d'apprentissage. Reconnaissance donc pour les professionnels de penser leur action, de les comprendre, de les écrire et de les transmettre. Une pensée incarnée, reconnue, respectée, à qui l'on octroie l'espace-temps pour la construire, espace de parole, temps hors action, confiance dans leur capacité de poser des gestes et des paroles ajustées, essaie de construire un contexte institutionnel qui autorise une telle pensée, qui y fait référence, qui favorise les initiatives collectives. Tel est ce que nous pensions, écrivions et souhaitions. Alain avec ses ateliers d'écriture, moi comme clinicienne entre psychanalyse et éducation. Cela a-t-il vraiment existé ? Certains souriront. N'était-ce pas qu'un rêve et même qu'une illusion ? Ce rêve s'est parfois réalisé dans certains contextes, mais il ne l'a pas emporté, loin de là. Un ouvrage écrit en 2012 que je ne peux que confronter à aujourd'hui et à demain. 2. Une responsabilité. À lire les philosophes qui tentent de comprendre l'évolution de l'humain au temps de l'IA générative, ce sont nos priorités qui sont particulièrement mises à mal. Pour ma part, je n'ai rien vu venir depuis 2020 et ma cécité m'interroge. Je pensais que l'IA était une technologie de plus, mais pas qu'elle ne bouleverserait notre rapport au monde et à nous-mêmes. Depuis peu, je lis pour comprendre des philosophes, des sociologues, des cliniciens. Bing-Chul Han, Eric Sadin, Anna Lombert, François Ansermet, Marc Unaidi, Gérard Bronner, Asma Mala et bien d'autres encore. J'ai depuis longtemps listé mes fidélités. Fidélité à l'écoute, au symbolique d'une parole adressée, à la voix, au regard, au corps ancré, à la pensée ancrée, au sentir, au rapport à un objet toujours à tutoyer, aux effets d'un transfert, à l'aimer, au temps long, à l'intériorité, au rêve, à l'inconscient. Fidélité à l'intuition, à l'articulation entre psychique et sociale, mais aussi à la pulsion de mort, à la négativité comme butée. Fidélité au au processus de création comme à ceux relevant d'une démarche clinique. Une transformation s'opère, c'est manifestement déjà opéré. Bing-Chul Han relève dans ses ouvrages de nombreux symptômes marquant notre aujourd'hui. La pauvreté de l'expérience, la perte de la valeur narrative, le récit transformé en storytelling, le triomphe du narcissisme, l'affaiblissement de l'empathie, l'information à la place du savoir, l'interdit de penser, les processus intérieurs d'aliénation, la disparition du regard, de la voix, de la différence, de la langue de l'autre, de l'écoute de tout ce qui prend du temps, des plages de silence et de contemplation, les identités fermées, la difficulté d'un nous, les entraves à nouer des relations sociales, etc. Avec la production d'une fatigue, d'un vide intérieur, d'une aliénation douce. Dans son ouvrage « Le désert de nous-mêmes », Eric Sadin évoque, lui, un possible an-humanisme. A-N, trait d'union, humanisme. François Ansermet suspecte une dévoration numérique avec des symptômes psychiques bien particuliers. Marc Unaidi réclame, lui, une déclaration universelle des droits humains pour le protéger. Ce qui forme, dit-il, écrit-il, l'esprit, donc, c'est ce qu'il rencontre, c'est son expérience, son contact avec le monde des autres, la manière dont il s'adresse à ce monde et dont le monde s'adresse à lui. L'esprit n'est pas à l'intelligence. Sont-ils des alarmistes, des technophobes ? Non. Il importe désormais d'analyser les transformations impulsées par une technique aux mains d'entreprises privées pour dessiner nos responsabilités. Il ne s'agit pas de refuser cette évolution, mais de prendre la mesure de vers quoi elle nous entraîne. Nous le savons, c'est l'usage de la technique qui peut être dangereux pour un humain tel que nous le concevons. Dans une philosophie de la technique, il en a toujours été de même, à chaque invention. Ces évolutions auront un impact important pour nos métiers de l'enseignement et de la formation, avec des bénéfices et des malheurs, des pertes et des cassures, avec surtout notre responsabilité. Ces transformations seront bientôt la norme pour les générations qui viennent. Ils n'auront rien à faire de nos regrets. Chaque contexte social produit ses richesses et ses pauvretés. Le psychisme, dans son articulation entre le dedans et le dehors, est producteur de symptômes qui prennent des formes différentes selon le contexte social auquel elles émergent. Quelles seront les souffrances psychiques engendrées par le monde de l'IA ? Nous les entrevoyons déjà maintenant. Solitude, dépression, sensation de vide, addiction, perte du goût de vivre. Un clinicien ne peut qu'accueillir ces symptômes, permettre qu'il y ait des mots qui surviennent pour en nommer le poids, en rechercher les origines. Accueillir dans la cure la technologie et ses effets, réfléchir aux symptômes engendrés, comme le fait François Ansermet. Ces symptômes recevront-ils un accueil différent que l'écoute, l'accompagnement, la patience d'un humain vis-à-vis d'un autre humain, comme nous l'avons éprouvé pour nous-mêmes? C'est très probable. Bientôt, nous pourrions, par exemple, nous brancher au programme d'une machine qui nous fournirait la tonalité de notre humeur, que ce soit la tristesse ou la joie. Comme l'évoque Philippe K. Dick dans son roman de science-fiction Blade Runner. Je le cite. Nous pourrions nous brancher sur l'humeur 382, extase sexuelle prolongée, ou celle du 481, humeur des multiples possibles qui s'ouvre à moi dans le futur, confiance renouvelée en, ou à l'humeur 594, acceptation reconnaissante de la sagesse supérieure de son époux en tout domaine, ou simplement 888, envie de regarder la télé, peu importe ce qu'elle diffuse. Entre parenthèses, il est nécessaire de lire les romans que Philippe K. Dick a écrits dans les années 1960. Ils sont d'une anticipation très étrange de ce que nous vivons. Manipulation de notre cerveau pour nous rendre addicts comme pour nous réparer. Aujourd'hui, quelle attitude nous est possible ? Je suis d'un âge qui me fait appartenir à une culture que l'on définit sans peine comme ancienne. Y a-t-il rupture ? Je n'en sais rien. Certains l'affirment. J'ai cru, j'ai enseigné, j'ai cherché. J'ai écrit sur l'expérience, sur la présence, sur la mise en mots de l'expérience, sur l'intériorité, la capacité pour chacun de penser ce qui lui arrive, pas seulement qui lui arrive à lui, mais aussi qu'il arrive à celui qui est en lien avec lui. J'ai misé sur la dimension relationnelle, donné une place aux sentiments essentiels, parlé d'engagement. Comme historienne, j'ai nommé les dettes, les filiations et leur transmission. Aujourd'hui, où un certain usage de la technique semble rabattre les cartes, transformer le psychisme, provoquer des souffrances différentes que par le passé, mais des souffrances tout de même, que faire ? Juger, dénoncer, renoncer, s'inquiéter, analyser, accompagner, faire confiance aux ressources de résistance à une possible inhumanité, devenir paranoïaque, se taire, continuer à parler, faire comme si cela n'existait pas, ne pas s'en préoccuper, cesser d'inventer, se soumettre sans même en avoir conscience. La seule position que j'assume, continuer à parler, énoncer ce à quoi je tiens dans nos métiers, mettre des mots sur des processus, clamer ce qui fait partie d'une humanité entre nous et les autres, et espérer que ces mots puissent encore toucher, qu'ils fassent réfléchir tout un chacun qui est dans le présent des actions, pour l'inciter à saisir les retombées de ce qu'il traverse, pour l'inviter à sauvegarder une pensée déjouant les procédés pervers d'une manipulation de l'âme et de l'esprit. Mes mots feront que familiarité à certains qui s'y retrouveront, puisse-t-il être accueilli par d'autres, non comme parole de vérité, mais comme essai d'une transmission, d'une histoire, puisqu'eux aussi seront amenés à leur tour à se maintenir créants, avec une prise en compte d'un autre, du contexte institutionnel et d'eux-mêmes. Alors accompagner, tenir, nommer et souhaiter que ne règne pas que l'addiction aux technologies. Une reprise. Mettre des mots sur l'expérience fut donc le premier titre de cette conférence. Jean-Marie Barbier l'a modifié une première fois par « être affecté », que j'ai ensuite changé par « penser d'une expérience affectée ». Chaque mot compte. Pensée, expérience, affect. Chaque mot comptait pour moi à mon époque, même si pas pour tout le monde, à mon époque, évidemment aussi. Je reprends, même au risque de la répétition. Une expérience. Nous avons cru, j'ai cru, à l'importance de faire expérience, ce qui vous réunit justement dans cette biennale. Et ce, malgré l'avertissement de Walter Benjamin, qui évoquait déjà au début du XXe siècle un appauvrissement culturel de l'expérience. Éloge d'une philosophie de l'agir, où l'on accepte de se mouiller, de se perdre, de rater, de douter et de penser après coup pour ne pas répéter nos erreurs supposées ou repérer ce qui est essentiel, de rester attentif, impliqué, engagé, agissant, ne prenant nos décisions que de l'intérieur d'une situation. Apprendre de l'expérience n'est pas une simple empirie, c'est mettre à l'épreuve nos théories, nos savoirs disciplinaires, ne pas croire savoir par avance, sans même regarder ce qui se passe. Votre présence ici à ce symposium est, de ce point de vue, pour moi rassurante, ainsi que l'intitulé de vos communications où se lisent souvent le sensible, le narratif, l'affect, le corps, la danse, la musique et bien d'autres démarches expérientielles. Je m'en réjouis, évidemment. Une expérience affectée. Nous y sommes présents, engloutis, éprouvant, ressentant sentiments et émotions. Même si nous devons finalement prendre distance, nous partons d'une implication dans laquelle notre subjectivité est engagée, avec notre histoire, notre formation, nos savoirs. Nous ne disons pas « nous savons », nous disons « nous travaillons ce qui nous revient ». Ressentir, éprouver, les cinq sens en alerte, nous fournissons moult indications qui nous permettent de nous guider. Une démarche clinique telle que nous avons tenté de la construire prône une subjectivité travaillée et non pas la mise en parenthèse de qui nous sommes. Éloge des sentiments, de l'intuition, de l'écoute. Nous peinons certes à nous y retrouver, nous semblons être perdus, mais ce qui en sort est quelque chose qui reste en lien avec celle ou celui qui nous fait face. Transfert, investissement, accompagnement. Rien de parfait, rien d'objectif, compris comme étant valable dans n'importe quelle circonstance. La qualité de nos actions provient, affirmions-nous, de cette bataille que nous livrons pour faire écart, pour défiger ce qu'il est. Présence discrète, sans arrogance, présence absence, présence silencieuse, présence consistance, sans mépris, même face au mépris de l'autre. Exercice difficile. Présence, attention, signe de connivence, reconnaissance, soin de soi dans notre manière de vivre et d'aimer notre métier m'ont toujours paru être un minimum. Une pensée de l'expérience affectée. Importance de penser quand nous sommes engagés dans une action pour construire ce savoir de l'expérience, notre richesse pratique. En partant de la singularité des situations marquées par tant de paramètres, pour trouver comment œuvrer, parler, agir, proposer, remédier. Ne jamais céder à un interdit de pensée. Trouver les espaces pour maintenir cette pensée de notre expérience. Penser, c'est mettre des mots, raconter, écrire, partager, ce qui est le plus difficile. Importance d'un narratif, du récit et de sa transmission. Importance de la parole échangée. 4. Ce qui s'oppose à une pensée de l'expérience affectée, notre responsabilité de formateur. Tenir l'expérience. Nous n'avons pas attendu le surgissement des IA génératives pour que cette philosophie de l'action professionnelle soit battue en brèche. L'ont emporté depuis longtemps pour déterminer les gestes professionnels, des démarches plus hiérarchiques, faisant davantage confiance aux procédures dictées d'en haut, aux modes d'emploi clés en main, aux réalités chiffrées, aux dictats, même si souvent contradictoires, sans connaissance du terrain, mais néanmoins appliqués, au contrôle, au mépris du savoir d'expérience. Alors que par ailleurs, ne cesse de se répéter un discours sur la réflexivité, l'autonomie, la compétence des professionnels. L'IA conforte seulement cette manière d'ordrer le réel. Un savoir préalable déterminé par les résultats actuels des sciences les plus à la pointe, comme on l'a dit. On fabrique hors sol ce qui doivent être les actions et on demande à d'autres de les appliquer indépendamment de la situation où ils se trouvent. L'IA peut même fabriquer ce qu'il faut faire, les procédures, le registre de l'action, mieux que nous, et je le crois sans peine. Mais cette pensée nous est extérieure, n'a pas été construite par nous, elle n'a pas subi les multiples variations d'une situation traversée. L'IA fait mieux que nous quand il s'agit de rédiger un plan de leçons didactiques, ai-je entendu, d'où son recours par certains étudiants, certes. Mais lorsqu'il s'agit de l'incarner, lorsqu'il s'agit de faire avec les turbulences des autres, ce sont d'autres qualités qui sont nécessaires. Avoir construit avec peine et angoisse une leçon, y avoir intégré un peu de sa passion et de sa curiosité, nous permet de la porter de l'intérieur et peut-être en conséquence sera-t-elle mieux accueillie qu'un plan qui nous demeure extérieur, même s'il est parfait. J'ai cru à l'importance d'un style jusque dans notre enseignement, d'une marque subjective, même d'une passion, un style que nous avons construit par l'accumulation de nos expériences réfléchies. J'ai cru au bénéfique de l'imperfection dans la transmission du savoir. Alors essayons, comme vous le faites, de préserver les terrains de l'expérience pour ceux qui se forment et apprennent. Une expérience dans tout ce qu'elle a de rugueux, de décevant, confrontation au réel et à ses résistances. À travers les récits professionnels, à travers la littérature, à travers des stages. Mais cette expérience se doit évidemment d'être accompagnée, les difficultés nommées, les angoisses reconnues comme normales. Accompagnée par nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, que le rapport à la réalité peut faire particulièrement problème. Il y a nécessité de guides, de repérages, de paroles partagées, mais aussi de tolérance pour les maladresses engendrées par les premiers pas dans le tumulte de l'expérience. Une formation purement intellectuelle et uniquement assise sur des données engendrera des catastrophes pour un enseignant dans sa confrontation à la classe. Mais direz-vous, ce sera désormais l'époque des savoirs en ligne qui seront transmis. Un enseignant, même universitaire, gérant surtout des plateformes de savoir, remplacées alors facilement par un robot. L'expérience n'y sera plus nécessaire, la manipulation de la technique l'emportera. Certes, mais avec quelle perte si cela se généralise ? La rencontre de paroles, la construction collective, les rires partagés, la reconnaissance de chacun à travers un regard, l'humanité de la rencontre, la joie d'être ensemble malgré nos différences, notre sensation d'être vivant parce qu'en mouvement de pensée et d'agir. Nommons au moins pour celles et pour ceux qui se forment et travaillent aujourd'hui les implications d'une telle transformation. Tenir l'expérience et tenir la pensée. Penser, reprendre les arcanes du penser. Comment se construit notre pensée? Comment arrivons-nous à poser un jugement critique? Quel chemin pour penser, non pas seul, mais avec d'autres? Toute une bataille se tient encore à cet endroit, avec le spectre d'un interdit de pensée que bien des auteurs dénoncent depuis pas mal de temps. Rapport entre la pensée et la théorie, intégrer les savoirs, les faire siens, les mettre en relation, en particulier à travers l'écriture. Ce long chemin angoissant pour s'approprier des théories, lire et écrire. C'est cette démarche qui est remplacée par l'IA. Une IA qui répond, écrit à notre place, une facilité qui nous est proposée et qu'il est si tentant d'utiliser. Il nous revient là encore de les accompagner, de nommer les étapes et les épreuves de la construction d'une pensée, leur apport pour nous-mêmes et les autres, permettre de faire des choix, reconnaître l'apport de la machine, différent de celui de l'humain, avec ses capacités de création, de jeu, d'invention. L'IA ne pense pas, ne doute pas, ne peut pas avouer ne pas savoir, à moins qu'elle ne soit programmée pour. Elle se fonde sur le passé, des milliers d'articles déjà publiés. Elle n'est pas apte à tisser des liens inédits. Elle est peut-être une aide, certes, mais ne nous épargne pas de construire une pensée à partir de nos inscriptions subjectives. Rapprocher des champs disciplinaires qui ne sont pas censés être en lien, seule une pensée humaine en est capable. Opérer alors une différence entre intelligence et pensée, intelligence et esprit, comme le propose Marc Onaïdi. Partageons avec eux nos questions et non pas seulement nos jugements. Anne écrit dans La crise du récit, je cite, « L'intelligence n'est pas l'esprit. Seul l'esprit est capable de produire un nouvel ordre des choses, de produire un nouveau récit. L'intelligence calcule et compte, mais l'esprit raconte. Les sciences humaines propulsées par des données ne sont pas des sciences de l'esprit, mais des sciences des données. Les données chassent l'esprit. La connaissance des données se situe au point zéro de l'esprit. Dans un monde saturé de données et d'informations, la faculté narrative s'atrophie. Le comprendre et le transmettre, et ne jamais renoncer à penser par soi-même avec les autres. Pas croire qu'on a raison tout seul. Humilité du parcours dans le savoir. C'est cela qui est menacé quand on délègue notre pensée à une machine. Penser, c'est découvrir, faire d'autres liens, interroger ce que l'on croyait savoir, prendre la mesure de notre non-savoir. Là encore, il nous revient de les accompagner, de nommer, comprendre, pour que le risque de penser puisse être pris par eux. Il semble que l'on ne puisse plus recourir à l'écriture quand la machine est là à portée de clic. Car elle réalise le travail à notre place, dans le style qu'on lui demande, et même de notre style si on en a déjà un. Il n'y a plus besoin de versions provisoires, de relectures de nos fragments, de corrections, de remaniements multiples, d'essais pour qu'un texte tienne. Plus de travail sur la langue, la recherche d'une poétique, le jeu avec les mots, la précision des mots, en un lourd et inquiétant labeur. Long travail qui finit cependant par nous donner tout autant une place dans les savoirs qu'une richesse intérieure. Il y a lieu de leur expliquer ces étapes, ces difficultés, aujourd'hui autant qu'hier. Prendre le temps, alors que nous sommes pressés par le temps. Et tenir l'affect jusque dans la pensée. L'affect est nécessaire à la pensée, comme la démarche clinique l'a avancé, et comme le nomme lui aussi dans son ouvrage « La fin des choses », Bing Chun Han. Je cite, « À un niveau profond, la pensée est un processus résolument analogique. Avant qu'elle n'appréhende le monde sous forme de concept, elle est saisie mieux, elle est affectée par le monde. L'affectif est essentiel pour la pensée humaine. La première image de pensée, c'est la chair de poule. Ne serait-ce que parce que la machine, parce qu'elle ne peut avoir la chair de poule, l'intelligence artificielle ne peut pas penser. On se fait prendre avant de comprendre. Précieuse indication pour nous guider et ne pas négliger le travail intérieur qui nous aide à résister à ce qui pourrait nous séduire mais nous déposséder de nous-mêmes. Tenir une pensée affectée, tenir la relation jusque dans la pensée, tenir une pensée de l'expérience relationnelle autant de l'IA qui sont qualifiées elles aussi de relationnelles. Tenir l'amitié, l'amour, la rencontre, le souci de l'autre, l'altérité, pour ne pas laisser quelqu'un dans la solitude négative où la machine prend alors la place d'un ami. Ce sont les qualités humaines que nous avons à préserver et à transmettre. Tenir aussi l'expérience, la pensée de l'expérience institutionnelle, comme l'indique le beau titre d'un ouvrage que viennent de publier sous la direction de Bruno Robs et de Dominique Sanson, Une pensée de l'institution, chez les éditions d'Eres, une pensée du nous, du vivre ensemble, au-delà des slogans, dans le quotidien de notre vie institutionnelle. Nous pouvons être découragés avec un pénible sentiment d'impuissance, mais penser est aussi notre protection. Alors, certes, tenir chacun dans notre fonction, cela signifie surtout nommer et surtout accompagner. Je ne suis plus dans l'enseignement, je ne suis plus à l'université, dont je connais l'évolution, où les espaces de création se sont réduits. Il importe cependant, me semble-t-il, de nommer ces enjeux, de faire réfléchir les étudiants et tout un chacun, donc de donner une nouvelle place à la philosophie, à l'éthique, à l'histoire, à la clinique, dans le cursus de formation des métiers de l'humain, là où justement elles ont très souvent disparu. Neurologues, cognitivistes, techniciens de l'IA auraient à reconnaître cette nécessité pour eux-mêmes aussi. Personne n'a la clé à lui tout seul face à ce qui vient. C'est ce que nous aurions à reconnaître. Faire réfléchir pour relativiser, comprendre les processus de construction de savoir, saisir les limites du chiffre et des données, histoire de l'épistémologie des sciences. Face à la soif des réponses, à laquelle répond parfaitement l'IA, réhabilitation de la question, à l'ouverture de la question, accompagner le mot qui me vient et me revient, les accompagner à partir de leur réalité, de ce qui est devenu normal pour eux. S'arrêter dans la course des réponses, remanier la transmission du savoir pour faire place à une réflexion qui met en perspective. Créer, c'est choisir, écrit Paul Valéry, cité par Éric Sadin. Leur donner la possibilité de choisir, c'est ce que nous pouvons encore leur offrir. Donner envie de lire. Thomas Périlleux, qui a écrit un très beau livre sur la souffrance au travail et est un ami, me rapportait les propos de deux de ses collègues qui renonçaient à faire lire leurs étudiants, ceux-ci recourant immédiatement à l'IA pour en faire, je pense, un résumé. Renoncer ou insister ? Lire des fragments, décrire l'importance de la lecture pour notre pensée, accompagner la difficulté qu'ils ont pour certains de se concentrer sur un long temps. Ne pas leur reprocher, les accompagner. Ensuite, qu'ils choisissent, mais sachant le coût psychique de ce choix. Donner à lire, et pas seulement de la littérature scientifique, mais le pensif de la littérature, comme le conçoit François Julien, avec sa matière bien à elle de nous faire connaître la réalité extérieure de l'intérieur, de sortir de nos périmètres et de nos dénis de réalité. Peut-être là aussi, encore, c'est difficile, ne pas renoncer. N'oublions pas que c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, comme l'écrivait Hannah Arendt, citée encore par Eric Sadin. On peut ainsi rêver dans notre monde souvent administré d'en haut à coups de décrets et de savoirs qui se prennent pour des vérités, de pouvoir remanier de biais, pas frontalement, la formation. Introduire des artistes pour maintenir la possibilité de créer, des philosophes qui pensent ce qui vient, des historiens qui créent des filiations pour un présent en ouverture sur demain, des cliniciens pour maintenir un travail d'intériorité, comprendre les souffrances psychiques en lien avec un social, des écrivains pour partager les multiples pratiques d'écriture. On peut encore rêver et essayer à notre place d'en réaliser un peu. J'ai été étonnée de rencontrer dans les ouvrages qui s'occupent des conséquences de l'IA générative le mot « âme » à sauvegarder. 5. En guise de. Pour terminer, je reviens sur l'expérience de vieillir, qui est la mienne, qui est celle d'un humain qui a la chance de pouvoir en goûter toutes les dimensions. Comment puis-je autant sourire en lisant des poèmes d'auteurs chinois de l'an 700 à 1700 et même d'auteurs du IVe siècle avant notre ère sur l'art de vieillir et de mourir dans un petit livre consacré à bien vieillir selon la méthode du Tao ou la voie du Tao? Comment est-il possible que ces haïkus, produits par ces vieillards, me soutiennent tant dans mon expérience de vieillir? Forte de cette lecture et de ses effets, je ne peux qu'être confiante dans la transmission d'une humanité que ne peut effacer les technologies de pointe d'aujourd'hui. Certains pensent pouvoir abolir la mort, qui n'est pas une expérience, puisque nous ne pouvons ni en parler, ni la modifier en la vivant une nouvelle fois. Je gage qu'ils échoueront, du moins cette fois je leur souhaite. Le transhumanisme se veut être une nouvelle religion, espérons que résistera une autre spiritualité qui nous vient de celles et ceux qui nous ont précédés. Je dédie cette conférence à Jean-Marie Barbier. Nous sommes nés la même année à 7 jours de distance. Sa brusque disparition et sa présence forte durant cette biennale de l'éducation qu'il a tant accompagnée marquent nos vies. Merci.
Merci beaucoup, Mireille. Bon, il y a de l'émotion qui circule, bien évidemment. Merci infiniment pour cette conférence qui parle à tout le monde et qui émeut, je pense, tout le monde. Nous allons passer à un moment d'échange avec la salle, avec vous. Ceux qui étaient présents à la conférence d'hier, je crois, auront trouvé des... même si l'approche était très différente, des points communs, déjà, avec beaucoup de choses qui se sont dites hier, et puisque David Le Breton appelait aussi les limites de l'expérience ou l'illiation de l'expérience. Voilà. Donc, si vous souhaitez poser des questions, interagir, oui, il va peut-être me falloir une aide pour les micros.
Merci beaucoup pour cette conférence. J'avais juste une remarque par rapport à l'IA. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on questionne beaucoup dans nos filières en éducation. Donc moi, je suis doctorante en sciences d'éducation de la formation. J'anime aussi, je suis aussi chargée d'enseignement et je fais de la formation. Mais je questionne la place de l'IA parce que, enfin, moi, j'utilise l'IA, mais à aucun moment je n'ai réussi à écrire d'articles ou de passages même de ma thèse avec une IA. Je trouve que elle a beaucoup de limites. Enfin, elle est pas du tout adaptée. Enfin, ou alors, soit j'ai pas la bonne IA, soit je. C'est vrai qu'on parle beaucoup du remplacement de l'IA dans nos parcours, mais enfin, même pour faire un cours, j'arrive. Enfin, j'ai déjà essayé. L'IA m'apporte pas grand-chose. Finalement, est-ce que c'est pas plutôt une réflexion de le lien de nos étudiants avec l'IA que vraiment ce que peut faire l'IA finalement. Alors soit encore une fois je ne sais pas m'en servir et peut-être que c'est la limite, mais voilà, peut-être et je rejoins une question qui avait été posée hier, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut amener nos étudiants à avoir une réflexion justement critique sur cet outil-là. Merci.
Oui, alors vous m'excusez, mais quand je fais des conférences, je me bouche les oreilles. Plus une perte de l'audition, donc ça se peut que je réponde en transformant votre
problème.
Question. Ce qui m'est apparu, parce que ma cécité, moi, m'interroge sur ses conséquences. Alors, on peut dire que ceux qui écrivent maintenant sur l'IA sont exagèrent, et on peut espérer que disons, les grands, ce qu'ils annoncent ne se réalise pas. Néanmoins, pour moi, ce qui est très important, c'est de ne pas punir les étudiants qui utilisent l'IA, mais de faire réfléchir sur cet usage. Cet usage, moi, je l'utilise aussi, mais elle a des limites, et surtout des limites par rapport à la pensée. Quand quelqu'un dit « j'ai plus besoin de lire parce que l'IA me donne un résumé », au lieu de punir, c'est-à-dire de rejeter ce qu'il fait, arrêtons-nous. Et chaque fois que j'en parle, on me dit « je n'ai pas le temps, je suis pressée par le temps ». Mais c'est à nous maintenant, dans nos situations singulières, de s'arrêter, de parler, de montrer, de défaire et de les laisser choisir. Mais j'ai tellement entendu que la seule réponse, c'était la punition. On vous met zéro, on refuse votre travail. On suspecte maintenant tout travail d'être écrit par l'IA. Alors, on ne fait plus confiance, c'est la méfiance. Est-ce qu'il a écrit par lui-même ou est-ce qu'il a écrit par l'IA? Et j'entendais un auteur qui a donné un paragraphe de ce qu'il avait écrit à l'IA en disant « est-ce que c'est écrit par l'IA ?» Et l'IA lui a dit « oui, c'est écrit par l'IA ». Donc on ne sait plus ce qui vient de l'humain et ce qui vient de la machine. Et cette confusion-là est nocive. Et donc s'arrêter, mais ça veut dire que nous-mêmes, on prend conscience de cette dimension de la machine et on ne fait pas comme je l'ai fait, en me disant non, c'est et les techniques de manipulation sont énormes maintenant, avec toutes les théories sur le cerveau. Oh. Et c'est vrai que les romans de Dick, il faut les lire, c'est juste hallucinant. Il était schizophrène, prenant des drogues, etc., mais il a anticipé ce qu'il advient de notre rapport à la machine, d'une manière stupéfiante. Donc, on a à se, en tant que professeur, on a à avoir un peu de distance par rapport à ça pour pouvoir nommer les choses. Et ensuite, la génération qui vient fera les choix et aura le poids de ses choix. Et il s'agira encore de les accueillir. Voilà. Je ne sais pas si je réponds.
Jean-Claude Régnier, professeur émérite à Lyon 2. Et Mireille, je pense que nous avons sévi... Je suis à là. Mireille.
Oui, voilà. Okay.
Nous avons sévi ensemble dans des jurys de thèse, il me semble. C'était pas au millénaire passé, c'était quand même dans ce millénaire. Mais je crois. Bon, alors, la question de l'IA me tourmente beaucoup. Alors moi, je m'intéresse à l'informatique depuis 1969, donc je ne suis pas tombé dedans parce que c'était intéressant. Hein, j'ai pris des cours à Dijon, à l'heure, à la chambre de commerce, par un ingénieur des mines. Voilà. Mais quand, chaque fois que je me suis investi en informatique et que j'avais l'impression que je tombais dans l'autisme, l'enfermement, je me suis fait enfermer dans des lieux où je travaillais. Donc, à chaque fois, je me suis sauvé. Voilà. Alors, je ne me suis pas plongé dans l'IA. Pour moi, la dimension axiologique, elle intervient dans les paramètres. Alors, j'ai voulu attaquer l'IA de cette pointe-là, et on m'a dit, non, tu te trompes. D'ailleurs, un collègue du CNAM, tu te trompes. C'est la question des bases de données. Alors, ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose par rapport à ça, ce qui me fait le plus inquiète beaucoup, c'est le choix intelligence artificielle. C'est-à-dire, l'intelligence au sens de la CIA, pas au sens de l'intelligence dans les langues romanes françaises, comme le français. Donc, c'est déjà un autre sens. Artificielle, bon, d'accord. Alors, moi, maintenant, ce qui m'effraie, c'est l'intelligence artificielle au bénéfice de la bêtise naturelle. J'essaie de construire un article depuis longtemps parce que je pense qu'on doit se mettre en garde. Et maintenant, on s'interroge. Je pense qu'on a peur. On est traversé en disant, bon, cette production qu'on a demandée à quelqu'un qu'on accompagne, est une production artificielle. D'accord. Mais moi, ce n'est pas là que ça me fait le plus peur. C'est dans le téléguidage des drones pour assassiner quelqu'un parce que la base de données dira que telle personne est comme ça. C'est un terroriste parce que la base de données dit c'est un terroriste. Aux États-Unis, les bases de données, si vous faites une reconnaissance faciale, les noirs sont pris comme les singes. Parce que la base de données, elle est faite sur les blancs. Les reconnaissances faciales dans les magasins maintenant pour identifier ce qu'on appelle un comportement suspect, c'est pas une valeur, ça, le comportement suspect. Se fait de façon. C'est des algorithmes qu'on appelle IA. Et c'est plutôt là que ça me fait peur. Pardon ? Non, mais ce n'est pas une question, c'est un accompagnement de par rapport. Excusez-moi, mais... Alors, si, bah, la position de... T'as raison, Stéphane. Excuse-moi, mais tu me connais assez, c'est bon. Merci pour ça. Et la question... Non, moi, ce qui me fait peur, c'est... Enfin, c'est comment, Mireille, tu penses qu'il faut étendre la question, non pas à la production de nos étudiants, mais à tout ce qui nous environne et comment, en tant que citoyen, on peut y résister. Comment la Commission européenne, on peut lui résister pour qu'elle ne mette pas systématiquement un contrôleur dans chaque téléphone par obligation. Et donc, on saura exactement, et ça sera trié par des algorithmes. Voilà, c'est ça que je souhaitais dire.
Et moi, je suis plus modeste. Je me dis, chacun à notre place. Moi, les bacs de données, les algorithmes et tout ça, ça me dépasse, je n'y comprends rien. Mais comment, à ma place, face à ceux qui viennent, à ceux qui se forment, à ceux qui apprennent maintenant avec ces technologies-là, qu'est-ce que je peux encore transmettre et comment je garde ce qui est mes valeurs essentielles, c'est-à-dire l'altérité, le rapport à l'autre, la rencontre humaine, les qualités humaines et comment je les vis avec les autres malgré que ces autres soient coupés de la réalité, soient parfois coupés de leur capacité de se concentrer et qu'ils produisent des symptômes que je dois accueillir et non pas juger. J'entends beaucoup le jugement. Ils font pas ça, ils ne peuvent plus, etc. Mais un clinicien ne juge pas, il accueille. Il accueille et permet que ce que l'autre vit ne devienne pas destructeur de lui-même. Et c'est ça la limite. C'est quand quelque chose devient destructeur de soi-même. Et le livre d'Éric Sadin... La désertification de nous-mêmes est vraiment quelque chose d'essentiel parce qu'il a demandé aussi à toutes les professions les effets de l'IA pour le traducteur, pour les comédiens. Il y a une transformation. Et quand on dit un livre peut être traduit par une IA, Mais c'est une traduction sans âme, c'est une traduction sans la patte du jeu de mots, sans la reconstruction que quelqu'un traducteur fait quand il est dans un livre pour faire passer la sensibilité d'une écriture. C'est tout ça, et je pense que nos professions vont être impactées. Et donc, c'est de savoir, et j'aime bien François Julien et un petit livre qu'il a écrit, Dénoué, qui est sur la fonction de médiateur. Et c'est vrai qu'il faut, bon, quand on est dans un syndicat, on y va frontalement, mais quand on est dans nos positions, on y va de biais, c'est-à-dire permettre de faire des expériences qui donnent à l'autre la possibilité de mesurer ce qui se passe. Voilà ce que je dirais. Donc chacun a sa place, mais il y a des techniciens de l'IA. Quand j'ai dit les cognitivistes, les neurologues et les techniciens de l'IA ont besoin de cette éthique et de la philosophie. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette réflexion philosophique, alors pas n'importe quelle réflexion philosophique, mais cette réflexion philosophique est complètement balayée des espaces de formation. Alors comment peut-on être philosophe quand on est didacticien? Enfin, c'est notre propre richesse dans nos disciplines qui est importante. Et on ne peut plus se dire qu'on a raison tout seul. Un didacticien n'a pas raison tout seul, un clinicien n'a pas raison tout seul, un cognitiviste n'a pas raison tout seul, un neurologue n'a pas raison tout seul. On ne peut plus. Et c'est ce que De Lion ne cesse de répéter. Au lieu de rejeter l'autre, essayons une collaboration. Mais ça, c'est tellement utopique. Puisque mieux vaut détruire l'autre pour exister que de collaborer et d'être déplacé de nos convictions. Parce que c'est bien ça. Si moi j'ai raison, ben tu as tort. Au lieu de dire j'ai raison et tu as raison. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça pour sauvegarder quelque chose pour les générations qui viennent? Ensuite, je ne sais pas, ça sera peut-être un autre monde. Et voilà. Et on y sera heureux et malheureux, comme aujourd'hui, avec d'autres paramètres. Et moi, j'ai jamais cru que je me sentirais d'un ancien monde. Et maintenant, je me dis, je suis d'un ancien monde. J'ai toujours cru que mes parents étaient d'un ancien monde, mais moi, que jamais j'aurais ce sentiment-là. Eh ben non. Voilà, c'est le lot des générations.
Madame Sifali.
On peut continuer les poèmes, la poésie, la musique, quelle qu'elle soit. C'est ce qui se transmet et il faut l'admettre. En tout cas, lisez des haïkus.
Madame Sifali, j'ai une question. Bonjour, je suis Stéphane Ballas. Je suis enseignant ici au CNAM. D'abord, merci beaucoup pour votre conférence pleine d'intelligence, d'humanité. Enfin, voilà, je suis très heureux d'avoir assisté à ce moment d'échange. Je vais reprendre quelques mots que vous avez prononcés pour vous poser une question. Vous avez parlé du bénéfice de l'imperfection dans la transmission des savoirs, en partant des questions didactiques. Vous avez aussi parlé de rugosité, de déception, d'angoisse normale. Et pour finir, vous avez dit, mais c'est ça la sensation d'être vivant. Voilà. Et alors, évidemment, je partage ça totalement. Et je me disais que si je me place du point de vue du formateur d'adulte que je suis, il y a peut-être une leçon à tirer de ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut accepter des étudiants qu'ils soient imparfaits, qu'ils soient rugueux parfois aussi, qu'ils soient dans des situations où parfois ils vivent des déceptions, mais il faut l'accepter en conscience et le partager avec eux. Je pense qu'on s'écarte d'une véritable formation si on attend la perfection des gens. Et donc, il faut accepter qu'on est imparfait, il faut accepter qu'eux aussi soient imparfaits. Et je trouve que ça, c'est déjà une bonne base pour renouer avec l'humanité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame.
Oui, merci. Oui, ben, la perfection. L'IA est parfaite, même si elle se trompe, elle fait des hallucinations et elle... un ami a voulu la faire parler comme Tiffany et il m'a envoyé ce qu'il avait fait. J'avais 10 citations de mes livres avec la page. 10 citations inventées. J'ai même un ami qui est parti d'une citation et j'ai dit mais ça n'existe pas dans mon livre. Ah, mais c'est un étudiant qui me l'avait mis, donc je l'ai repris. Donc, l'IA est imparfaite, mais se tient pour parfaite. Et l'imperfection, c'est cette part de vulnérabilité que j'ai et qui permet d'accueillir la vulnérabilité de l'autre. Mais c'est de nommer que penser, c'est angoissant. Penser, c'est terriblement difficile. Et que c'est normal d'être maladroit, mais on nomme pas assez ces processus-là. Voilà, donc oui, éloge de l'imperfection et de la maladresse.
Oui, je vous remercie. Je fais partie de l'ancien monde, je suis plutôt pratique freinet. Et je me dis que finalement, le problème qui est posé par rapport à l'IA, c'est la nature de la mise à l'épreuve que l'on pose. Est-ce qu'on a besoin de penser et d'une construction préalable ou est-ce qu'on va vers le réel et on travaille avec lui? Et je pense que une des réponses, moi je pense que l'IA fait partie de nous. C'est-à-dire que c'est un prolongement de notre cerveau et qu'il faut s'en défaire. Et pour s'en défaire, il faut rencontrer le monde et penser avec le monde et les autres. Et je pense que si on donne des épreuves qui consistent à voir l'extérieur, d'essayer d'inventer un avenir désirable, là, pour le coup, c'est intéressant. On ne va pas réfléchir d'abord et avoir une solution. On va mettre à l'épreuve, essayer de trouver ensemble quelque chose. Mmh. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi s'en sortir. Et d'une certaine manière, je serais assez partisan de l'éloge du bricolage. Mmh. C'est-à-dire que voilà, dans le bricolage, je rencontre le réel, il me résiste. J'accepte qu'il me résiste et j'essaie de trouver des solutions avec les autres. Avec l'idée que c'est l'obstacle qui va faire le passage. Donc je me dis que c'est ça qui est important. Et comme vous avez parlé de François Julien, moi je retiens de lui aussi qu'il dit finalement... Dans la rencontre, je suis ce que je suis, l'autre est ce qu'il est, mais en même temps, on a des choses qu'on peut se dire ensemble. Et quand lui me dit des choses que je comprends, et bien quelque part, je peux parler avec lui dans une sorte d'entre-deux dans lequel on peut co-construire. Et je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Plutôt que d'avoir une pensée d'ingénieur qui surplombe ou une pensée de l'IA qui va donner des solutions, non. Et ça, pour le coup, ça revient à remettre une humanité de la rencontre, de la possibilité, et dans une éthique aussi, du faire ensemble.
Oui, simplement, aujourd'hui, ce qui importe, c'est la réponse. J'ai un symptôme, je veux une réponse. Donc, l'éloge du bricolage, comme Michel de Certeau l'a aussi dit, Ce tutoiement du monde pour que le monde, que je sois affectée par le monde et que je puisse transformer le monde, c'est plus la philosophie que favorise l'IA. Et c'est là qu'il s'agit de montrer ce que la machine nous permet et ce qu'elle ne permet pas. C'est tout. Elle est ajustée à certains moments. Et elle n'est plus ajustée à d'autres moments. Et c'est ces différences-là qu'il, au lieu de refuser l'IA ou toutes les technologies, je pense que ce n'est pas une position, c'est de l'intégrer à sa juste dimension. Et le nous, et le dialogue avec le monde, le dialogue avec soi, l'intériorité, tout ça, et la littérature est importante pour ça. Et c'est pour ça que le poncif de la littérature de François Julien est un peu difficile à lire, mais est aussi intéressant. La littérature pense, pas la même manière que les sciences humaines, qui peuvent devenir des sciences des données, mais la littérature pense et transmettre. Moi, j'ai toujours transmis aux étudiants à travers des fragments de littérature, à travers des récits, à travers des récits d'expérience, à travers leur propre expérience relatée qu'ils me le faisaient. Et ça avait un impact incroyable, parce que ce que je lis dans ce qui est écrit renvoie à moi, qui me met en mesure de penser ce qui m'est arrivé différemment, mais quand même avec des ressemblances. Enfin bon, c'est toute la démarche clinique. Voilà, mais je vous remercie.